Licencié chez Hogan Lovells, Étienne Drouard débute sa carrière en 1996 à la CNIL, de laquelle il garde un excellent souvenir. De barman dans les piano-bars à pondre des questions de technologie de l'information et de protection des données, il a été reconnu par Chambers & Partners Europe, l'un des 5 meilleurs spécialistes en France. Bonjour Étienne.
Bonjour Angélique.
Merci beaucoup d'accepter de partager cet instant privacy. Peux-tu nous raconter ton parcours ?
Je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était l'angoisse de la pression familiale. Alors j'ai fait beaucoup de sport et puis je me suis retrouvé barman en boîte de nuit, pianiste en piano-bar, pendant plus longtemps que je n'avais fait des études de droit, jusqu'à ce qu'un ami un jour me dise « J'ai rédigé ton CV, je l'ai envoyé à quelqu'un, tu as un stage dans une société d'édition de bouquins de droit et tu commences la semaine prochaine. » À l'issue de ce stage, j'ai rencontré la CNIL lors de sa conférence de presse 1996. J'ai postulé en décembre. Et je suis rentré à la CNIL. Et c'est comme ça que j'ai appris ce que je voulais faire dans la vie.
Début novembre 2023, les aficionados de Instagram et de Facebook se sont retrouvés face à un choix cornélien. Payer un abonnement de 12,99€ pour continuer à utiliser leur réseau social favori sans plus aucune publicité ou continuer à l'utiliser gratuitement, mais avec toujours plus de pubs. Faut-il donc payer pour protéger ces données et celles-ci valent-elles 13€ par mois ? Tu as été, Étienne, aux premières loges de cette actualité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que les utilisateurs européens ont été confrontés à ce choix-là et quelles en sont les conséquences pour eux ?
C'est parti en 2019, d'une position de la CNIL qui, en France, disait « Les cookie walls sont non conformes au RGPD », c'est-à-dire l'exigence d'accepter d'être tracé pour pouvoir être... rentable sur le plan publicitaire, était une exigence non conforme. Il fallait offrir aux personnes une alternative. Et face à cette affirmation, un recours devant le Conseil d'État a été porté par des associations professionnelles qui se sont dit « on veut bien comprendre ce qui est interdit, mais il faudrait nous l'expliquer, on ne peut pas procéder par affirmation, il y a telle ou telle technique d'accès à un service qui serait interdite ». Le Conseil d'État en est ressorti avec deux idées. La première, c'est qu'on ne pouvait pas interdire sans s'expliquer. Et la deuxième, c'est que dès lors qu'on offrait aux personnes une alternative, un choix, entre payer une somme modique ou qu'on accède à un service financé par la publicité, cette alternative était conforme à la caractéristique d'un consentement libre. Choisir, ça ne veut pas dire choisir parmi toutes les options qu'on voudrait soi-même, mais c'est choisir parmi des options qui sont acceptables et qui sont proposées par le fournisseur de services. Le Conseil d'État nous disait aussi, il faut que le fournisseur de services propose une solution alternative. Il ne peut pas dire aux personnes, allez voir ailleurs si j'y suis. Il doit aussi leur proposer une solution qui est une alternative qui n'est pas un repoussoir. Soit vous achetez une maison, soit vous accédez à un service de réseau social. Évidemment, on préférait accéder gratuitement à un service de réseau social. Donc il faut que ce soit expliqué et rationalisé entre la gratuité et le paiement. Et enfin, il faut que cette alternative soit présentée dans des conditions qui sont visible de manière équivalente. Ce n'est pas d'abord la publicité, accessoirement, si vraiment tu ne veux pas de publicité, alors tu vas payer. Ou alors on te fait payer, et si vraiment tu ne veux pas payer, alors il ne te reste plus qu'à avoir la publicité. Mais c'est vraiment un écran coupé en deux, où on permet aux gens de choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge.
Mais alors, pour des utilisateurs qui ont eu l'habitude, depuis la création d'Internet et des réseaux sociaux, de les utiliser en apparence gratuitement, comment leur donner toutes les clés pour comprendre qu'en réalité... eh bien, rien n'est gratuit, que leur usage a un prix. Alors, est-ce que c'est celui de ne pas être tracé et traqué à des fins de publicité ciblée ? Est-ce que c'est le prix du service ? Donc, comment on arrive à être transparent avec des utilisateurs, finalement, qu'on n'a pas habitués à des services numériques payants ?
Justement, on impose désormais aux prestataires de services d'être transparents. C'est-à-dire que le paiement indirect avec vos données, qui était une règle implicite... elle était implicite, cette règle. On devait consentir ou non à une technologie prescrite par la directive e-privacy, le RGPD, le droit au consentement, mais on n'explique pas derrière qu'on paye avec ses données ou on paye avec de l'argent. C'est aussi vieux que l'invention de la radio, de la télévision ou du cinéma. Vous payez votre place de cinéma, il y a un petit peu de pub au début, mais il y a surtout du cinéma à l'intérieur. À la télévision, il y a des écarts publicitaires qui sont proposés au milieu des programmes parce qu'on finance le service avec la publicité. Et c'est pour ça que cet apparent conflit qu'il y a entre la vie privée et les modèles économiques, Il a déjà été discuté en 1998, puis en 2018 dans une directive sur la protection des consommateurs, où il est dit dans ce texte qu'on peut demander un paiement direct ou indirect, et ce paiement indirect que les personnes fourniraient peut être constitué des données qui sont nécessaires au financement du service. Données parce que ces données sont le moteur de la publicité qui va permettre de financer le service. Donc ce n'est pas contraire au droit européen. Et puis le Conseil d'État nous a dit en juillet 2020, ça n'est d'ailleurs pas contraire à l'exigence d'un consentement libre des personnes. Donc est-ce qu'on paye pour protéger sa vie privée ou est-ce qu'on paye pour accéder à un service ? On peut le présenter comme on veut, mais en fait le service il n'a pas l'obligation d'exister. Et vous n'avez pas l'obligation de l'utiliser, et il n'a pas l'obligation d'être financé par le Saint-Esprit. Donc, puisque ça n'est pas un service public et qu'il faut quand même bien que quelqu'un paye pour, l'alternative qui est proposée, c'est celle de savoir qui va payer pour le consentement de l'autre. Si vous ne voulez pas consentir à recevoir des publicités et à être tracé, alors quelqu'un va payer pour quand même continuer de financer le service. Cette équation entre combien ça coûte et qui paye pour les autres, c'est l'équation de l'accès au service. Ce n'est pas « je dois payer pour protéger ma vie privée », c'est « vous n'êtes pas obligé d'aller sur un réseau social, il n'est pas financé par les impôts, il faut bien que quelqu'un paye par un moyen direct ou indirect ».
Le RGPD a mauvaise presse auprès des fournisseurs de services de publicité, des marketeurs et des commerciaux. Tu les connais, et tu les connais bien, parce que tu les défends et tu défends leur position en tant qu'avocat. Et selon toi, les techniques de marketing actuelles peuvent-elles être compatibles avec les règles de protection des données ?
Oui, et inversement. Aujourd'hui, par exemple, pour envoyer un courrier de prospection électronique à une personne, on n'est pas obligé d'avoir son consentement. Si elle vous a fourni elle-même son adresse email et que vous envisagez de promouvoir auprès d'elle vos propres produits et services, il n'y a pas besoin qu'elle coche une case pour vous dire « j'accepte de recevoir vos offres ». C'est un régime de droit d'opposition qui doit être offert aux personnes dès la collecte de leur adresse. Si en revanche vous voulez utiliser leur adresse pour leur adresser des offres de tiers, ou si vous voulez transmettre leur adresse à un tiers qui va ensuite leur envoyer ses propres offres, il faut leur consentement préalable et explicite. Il y a un caractère hybride qui a été instauré depuis 2002 dans la directive e-privacy pour pouvoir faire du marketing électronique en fonction soit d'un droit au refus, soit d'un droit à consentir selon le type de relation qu'il y a entre une personne et une entreprise. Et donc il n'est pas du tout interdit de faire du marketing. Il est interdit de le faire sans demander aux gens ce qu'ils en pensent. Il n'est pas non plus obligatoire d'avoir le consentement des personnes pour envoyer une offre. Tout dépend si on les connaissait parce qu'elles nous ont fourni leur adresse email ou si on a obtenu leurs coordonnées auprès de quelqu'un qui aurait dû leur demander leur consentement. Donc tout n'est pas interdit, mais le flou qui, avec le RGPD, est arrivé, c'est une forme de marketing juridique qui a consisté à dire « maintenant l'Europe est plus forte, les sanctions sont plus fortes, on va voir ce qu'on va voir sur les transferts de données et la protection européenne par rapport au reste du monde. Et vous savez quoi ? Le RGPD, c'est le droit à consentir. On va redonner aux personnes un contrôle sur l'usage de leurs données. » Ça, c'est de la com. Juridiquement, le contrôle que les personnes ont, c'est de savoir si elles peuvent dire oui ou non. Elles peuvent se faire effacer d'un fichier. Mais en tout cas, il n'y a pas de prohibition de principe de leur faire une offre. Si on ne se conforme pas aux règles de transparence pour offrir des choses aux personnes, on est en violation du RGPD. Mais la transparence n'empêche pas de faire du marketing.
Est-ce qu'il y a eu, en 2018 et depuis le 2018, une confusion entre RGPD égale consentement à tout prix ?
Oui, et c'est une confusion qui est nourrie par le fait que le cadre juridique est incomplet. Le RGPD, modifié en 2018, il remplace une directive qui datait de 1995. Cette directive a une petite sœur, la directive e-privacy, qui elle est encore dans son état de 2002. Et qui n'a pas encore été modifié. Ça signifie que tous les services régulés par la directive e-privacy, le marketing par email, le traitement des données de géolocalisation, le traitement d'une donnée de trafic liée à une trace sur un réseau, tout ça est soumis à des régimes binaires de consentement. Soit on traite ces données parce qu'on a le consentement des personnes, soit on a le droit de traiter ces données à condition que ça ait été sollicité par l'utilisateur et que ce soit nécessaire à la fourniture d'un service. Cette binarité, soit c'est le consentement, soit c'est la mort ou la prohibition, n'est pas celle du RGPD. Dans le RGPD, vous avez 6 raisons de traiter des données, ou le consentement des personnes, ou une nécessité contractuelle, ou un équilibre entre votre intérêt et les droits des personnes, ou la sauvegarde de la vie humaine, etc. Depuis que le RGPD a été adopté, les régulateurs ont enfourché le cheval du consentement un peu sur le RGPD, beaucoup sur la directive e-privacy, c'est-à-dire que tous les traitements par Internet sont soumis à cette binarité, c'est ou le consentement ou rien, alors que le RGPD n'a pas cette exigence binaire. Mais puisqu'on parle de protection des données liées à une trace sur Internet, à la prospection par email, on a tendance à penser que depuis le RGPD, il y a un monde qui est simplement à deux couleurs, c'est le consentement ou rien. C'est pas le monde du RGPD, mais en revanche, c'est le monde de la confusion qui fait que nous n'avons pas encore un cadre complètement mis à jour du RGPD. Ça a une deuxième conséquence, c'est que dans l'empire du RGPD, les régulateurs sont obligés de se mettre d'accord d'un pays à l'autre lorsqu'une situation est à cheval sur deux pays. Dans la directive e-privacy, on n'avait pas pensé que le RGPD interviendrait 15 ans plus tard et qu'il prévoirait un mécanisme de guichet unique pour imposer aux régulateurs de se mettre d'accord. Donc quand les régulateurs ont envie de ne pas être d'accord entre eux d'un pays européen à un autre, ils agissent sur le fondement de la directive e-privacy pour réguler tranquillement dans leur coin à la différence de leurs collègues dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc cette bataille du consentement, c'est aussi celle d'un canard sans tête qui, sur le terrain de la directive e-privacy, met du consentement à sa sauce culturelle locale, sans coordination entre les régulateurs entre eux. Et ça, c'est délétère parce que non seulement c'est illisible pour les entreprises, mais grosso modo, ça affaiblit le niveau de protection des personnes.
Et penses-tu qu'il doit y avoir une forme de responsabilité individuelle que la CNIL devrait mettre un petit peu plus en avant ? Dans le sens où on parle beaucoup des droits des personnes concernées, mais peut-être pas assez des devoirs des individus dans une société un peu bipolaire qui partage en masse sa vie et ses données privées, mais qui semble allergique à la publicité ciblée.
Le choix qui a été fait de prioriser le consentement sur toute autre forme permettant aux personnes de se protéger, ça crée un hiatus entre ceux qui ne s'expriment pas mais veulent être laissés tranquilles, et tant qu'ils n'ont pas dit oui, ils auraient un droit à la tranquillité. Ceux qui s'expriment en se désabonnant à tout parce qu'ils ne veulent pas de cette pression publicitaire et qu'on les profile. Et en fait, des régulateurs qui, à force de promouvoir le consentement, c'est-à-dire un choix de l'utilisateur, démissionnent de leur rôle de régulation et laissent faire les pauvres gens qui doivent comprendre comment se protéger. Et c'est pour ça que quand on est très rétif à la publicité, mais qu'on n'agit pas pour exprimer ses droits, on a cette impression d'être débordé, de ne pas être respecté dans ses droits, parce que par ailleurs, on ne les exerce pas. Donc plus les régulateurs poussent sur le consentement, plus ils nous obligent à avoir Bac plus 12 et comprendre de quoi on parle, et plus les personnes sont réticentes à la publicité, mais n'agissent pas, plus on a un besoin de régulation. Trouver un juste équilibre entre vouloir protéger les gens malgré leur silence, ce qui me semble être la mission d'un régulateur, il n'est pas là pour protéger les gens qui ont peur, il est là pour protéger tout le monde, et puis les droits individuels des personnes qui consistent à consentir ou à s'opposer. Et si on fait un peu baisser cette pression du consentement en estimant que c'est l'alpha et l'oméga de la protection des données personnelles, on va trouver quand même à protéger la vie privée des gens qui ne s'expriment pas et qu'on doit protéger de toute façon sur une bonne transparence, une durée de conservation limitée, un transfert de données à des tiers à la condition du consentement des personnes, mais des mécanismes plus simples qui ne consistent pas à interdire la publicité, qui ne consistent pas à l'interdire au prétexte que les personnes n'ont pas consenti, mais qui consistent à encadrer davantage le profilage, les transferts de données, l'enrichissement, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va soumettre l'intelligence artificielle au consentement des personnes et est-ce que ça les protégerait mieux ? Non. Donc on peut dès à présent en fait s'intéresser aux gens qu'on veut protéger plutôt que d'attendre d'eux qu'ils soient les maîtres de leur vie privée. C'est un enjeu d'éducation qui pourrait passer par la transparence. Mais on a bien compris que trop de transparence tue la conscience, parce qu'au bout de 90 pages de lecture de conditions d'utilisation, on peut devenir universitaire, mais on n'est pas encore un citoyen, parce qu'on n'a rien compris. Et cet équilibre sur la possibilité de mettre les personnes en mesure d'exercer leur pouvoir de choix, cette éducation, elle ne tient pas dans un journal télévisé sur des ventes de données. Elle ne tient pas sur l'idée que, en fait, les géants de la tech sont les big brothers de demain et vont tuer les démocraties. Dire aux personnes qu'elles ont un rôle à jouer dans cette démocratie de la donnée, c'est absolument nécessaire. Ça nécessite plus une école qu'une police. Et pour l'instant, on a vu la police, mais il nous manque l'école.
Plus de 5 ans après son entrée en application, selon toi, est-ce que le RGPD commence à être appliqué seulement maintenant ?
Oui, parce que c'est le temps des contentieux. Et pour clarifier des concepts, se mettre d'accord entre régulateurs, utiliser un cas d'espèce pour en tirer une règle générale qui clarifie les règles pour tout le monde, mais il faut 5 ans. C'est aujourd'hui seulement que cette articulation entre le RGPD et la directive e-privacy, la traçabilité sur Internet et les grands principes, trouve des jurisprudences cassantes qui obligent des acteurs à revoir leur modèle économique, à proposer enfin une offre qui dise aux personnes que rien n'est gratuit, Et c'est là où il y a cet effet de surprise ou de sidération 5 ans plus tard, alors qu'on pourrait se dire, non mais ça fait déjà 5 ans que le RGPD s'applique, comment se fait-il qu'on découvre ce genre de choses? Mais ça se fait parce que c'est le temps d'évolution du droit. C'est parce qu'on est aussi une communauté collective, on n'est pas un État fédéral. La culture de la vie privée en France n'est pas la même qu'en Espagne parce qu'on n'a pas connu les mêmes types de dictatures. La notion de consentement n'a pas la même notion parce qu'on n'est pas en droit anglo-saxon ou on est en droit continental. Et donc ça prend du temps, ça a déjà pris plus de 20 ans. Et ça n'était pas encore complètement harmonisé. C'est insupportable à dire, mais quand on est patient, on avance plus vite que quand on s'énerve.
Eh bien, très cher Étienne, merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec moi et avec nos auditeurs. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve en 2024 pour un nouvel épisode, pour la suite de l'aventure du podcast L'Instant Privacy. Et d'ici là, avec un petit peu d'avance, eh bien, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année.